Emmanuel Bove est né à Paris en 1898. Il y est mort en 1945, à l'âge de 47 ans. À 23 ans, il écrit son premier roman, Mes amis. Trois ans plus tard, Armand vient confirmer les dons particuliers du romancier pour l'observation psychologique et sa finesse à débusquer les tensions et les rivalités sous la moindre parole, dans le moindre geste, sans recherche narrative visible.
Armand, d'Emmanuel Bove. Texte dit par Olivier Broche, sixième épisode.
1925. Armand s'est sorti de la misère grâce à la générosité de sa maîtresse, Jeanne, chez laquelle il vit depuis un an. C'est alors qu'il retrouve par hasard Lucien, un ami de régiment et vieux compagnon d'infortune. C'est chez Lucien qu'il rencontre Marguerite, sa sœur, jeune fille maladroite, excessivement craintive et candide. Un soir, sans vraiment savoir pourquoi, Armand rend visite à Marguerite dans sa chambre d'hôtel miteuse.
Je n'étais pas ému. Arrivé devant la porte de Marguerite, que j'avais trouvée tout de suite dans la demi-obscurité, j'hésitais à frapper, craignant subitement que Lucien ne m'eût menti, qu'il ne fût là, que cet enfant ne fût sa maîtresse. J'écoutais, tournant la tête de côté et d'autre, car j'oublie toujours qu'elle est mon oreille qui entend moins bien que l'autre. Aucune lumière, aucun bruit ne venait à moi. Dans une pièce voisine, un homme et une femme parlaient à voix basse. J'ôtai mon chapeau d'avance. Je changeai mes cigarettes de poche. Il me fallut quelques secondes pour trouver le juste milieu de ma pochette. Je frappai doucement, comme on frappe le soir. Dans l'ombre, je cherchais à refaire ma raie. Elle était plus courte que je ne le pensais. Je la remontai d'un doigt, essayant de reculer sa naissance au travers de mes cheveux emmêlés. Marguerite ouvrit si vite qu'elle aperçut ma main se baisser, qu'elle ne sut d'où elle venait. Elle eut un sursaut. J'avais avancé un pied pour qu'elle ne pût refermer la porte. Pourtant, je n'osais entrer. Ses cheveux encore tressés pendaient dans son dos et, comme ceux de toutes les femmes, me déçurent par leur peu de longueur. Elle tremblait. Son émotion était faite en partie du respect que je lui imposais, en sorte qu'elle était hésitante, qu'elle était partagée entre le désir de fermer et d'ouvrir la porte toute grande. À la fin, elle s'effaça, puis poussa la porte doucement. En geste rapide et court, comme si elle avait été vêtue d'un peignoir qu'elle eût dû en même temps tenir fermé, elle s'employa à dissimuler du linge, des assiettes, à cause d'une pudeur lointaine de ce qui est blanc. Bien que la chambre fût petite, elle était froide. La fenêtre droite dans un mur en pente était close. Le lit, bordé avec soin aux pieds, ne touchait pas le mur à cause de l'humidité. Des objets inutiles encombraient les meubles. Comme moi, au temps où je vivais seul, elle ne se résignait pas à jeter les boîtes et les flacons qui témoignaient de l'argent dépensé. Une lampe éclairait la pièce. Marguerite alla chercher une chaise, la traîna derrière elle comme les enfants qui font des rails. Je m'assis. J'étais embarrassé. Il me paraissait subitement que j'avais été trop loin, que j'usais de l'impression que je produisais pour venir le soir chez cet enfant. À son tour, elle s'assit. Nous étions l'un en face de l'autre sans qu'aucune table ne nous séparât. Elle était vêtue d'une camisole et d'un jupon de flanelle à cause de ce respect des pauvres pour la flanelle, et chaussée de pantoufles transformées en mules par paresse de se baisser. Nous restâmes ainsi un long moment, si long qu'il permit à un locataire de gravir l'escalier entier. Elle était plus calme que lorsque je l'avais quittée. Elle regardait autour d'elle, furtivement, de crainte de n'avoir oublié sur un meuble un objet qu'elle aurait voulu me cacher. Elle eut soudain reconnu l'un d'eux qu'elle n'eût pas osé se lever, qu'elle se fût efforcée, par un raisonnement, d'en justifier la présence. Une voix, coupée au moment où l'on allait comprendre, s'éleva dans une pièce voisine. Puis une porte claqua avec tant de force que des objets tremblèrent, que la lampe fuma une seconde, que nous baissâmes les paupières. Nos yeux, au milieu de ceux qui les entouraient, se rencontrèrent en s'ouvrant. Un peu de bruit montait de mes pieds quand je remuais l'orteil comme au temps où j'étais pauvre pour sentir s'ils étaient mouillés. Mes tempes, si minces, entendaient le battement de mes artères. mes narines, l'air qu'elle filtrait. Les bruits ne venaient que de moi, de mes mains quand je les fermais, de ma bouche quand je goûtais ma salive encore parfumée de café, de mes oreilles elles-mêmes que mes yeux, en se baissant, faisaient parfois crier. Les mêmes bruits, Marguerite devait les percevoir, venant d'elle-même. Comme moi, elle les épiait, et plus timide, les redoutait. Je fis le geste ridicule d'approcher ma chaise de la sienne. Elle parut ne pas s'en apercevoir. La tête inclinée, les mains jointes, mais pas comme sur un tableau, pas l'une exactement contre l'autre, elle réfléchissait. Devant tant de résignation, de faiblesse, de pauvreté, je fus pris de pitié. Pourtant, elle était heureuse. Elle ne disait rien. Elle se contentait de goûter ma présence sans en chercher la cause ni le but. J'approchai encore ma chaise. J'aurais aimé à lui parler à voix basse, à être près d'elle pour la rendre semblable aux autres femmes, pour lui apprendre à se défendre. Mais je me taisais. Elle ne comprenait pas toute l'amitié que je lui portais. J'étais pour elle l'homme qu'elle avait attendu sans le savoir, qui devait un jour venir. De nouveaux sentiments naissaient en elle, si différents des miens. Dans un mouvement que je ne commandais qu'à demi, je pris ses deux mains jointes en souhaitant qu'elles se séparassent, que l'une d'elles seulement me restât pour qu'elle fût plus petite entre les miennes, pour que je pusse en caresser la paume. Mais au contraire, elle les serra plus fort. Mon regard se porta alors sur ses bras. Ils étaient plus blancs du côté qui se trouve le long du corps, du côté que le soleil n'atteint jamais. Marguerite ne se défendait pas. Sa lèvre inférieure tremblait parfois comme si, d'émotion, elle oubliait de lui commander. J'examinai ses doigts, un à un, ne tenant que celui que je regardais, m'attardant sur les plus longs comme s'ils méritaient de retenir le plus l'attention. Je me penchai sur ses mains, pas trop pour pouvoir les caresser sur la longueur, l'esprit absent, ému par la vie sans joie de cet enfant. Les hommes lui apparaissaient possesseurs de tant de dons que, bien que je me tinsse courbé, elle ne devait pas oser me regarder de peur que je ne l'eusse su par un moyen qu'elle ignorait. Alors, sans penser, à cause de la douceur qui m'enveloppait, je posai mes lèvres sur ses doigts. Elle les écarta pour que je ne les embrasse pas, se leva d'un bond, se réfugia dans un coin de la pièce, derrière une malle autour de laquelle elle eût pu tourner si je l'avais poursuivie. Je m'étais levé. Elle me toisa un instant des pieds à la tête. Puis elle s'approcha de moi, me tendit la même main qu'elle venait de me retirer. « Ne m'en veuillez pas, monsieur. » Je lui pris le bras. Debout, il lui semblait que nous allions nous séparer si moi aussi je lui avais tendu la main. La tête penchée, elle paraissait commettre une faute. Je voulus la serrer contre moi. Elle se défendit avec douceur, me fit lâcher prise de ce même geste si violent au théâtre. Libre, elle s'assit sur le lit et, pour que je ne fusse pas fâché, me saisit la main, en appuya l'extérieur contre sa joue parce qu'elle s'était souvenue que la paume se pose sur tous les objets. À mon tour, je m'assis près d'elle. Je tentai de lui faire lever la tête, comme à un enfant en lui tenant le menton. Ma main prisonnière, si je l'avais retirée, facilement puisque le plus grand côté se trouvait vers moi, eût fait tout écrouler ainsi que dans un échafaudage. Je ne bougeais plus, comme si un de mes mouvements eût fait manquer une photographie. À la fin, je la saisis par la taille. La courbe du poignet avant qu'il trouvât un appui m'apparut ridicule. Mon visage était proche du sien. Ses lèvres tremblaient avec plus de délicatesse que celles d'un homme. Elle s'appliquait à ne pas me résister, parce que dans son esprit j'étais celui qu'elle devait aimer, qui ne se présenterait qu'une fois. Elle croyait à l'occasion. Elle avait toujours peur de la mal discerner. L'exception lui servait de pierre de touche. Aussi, à cause de ce qu'il y avait d'exceptionnel en ma présence dans sa chambre, eut-elle la certitude que j'étais cette occasion qu'elle attendait depuis si longtemps. Je lui faisais face pour que ce fût mon front, dont la peau est plus douce que celle du visage, qui se posa le premier sur ses joues. J'étais calme. Aucun désir ne me poussait à m'approcher d'elle plus encore. Je la serrais pourtant contre moi, sans force, parce que je n'osais faire le tour de sa taille. « Que faites-vous ? Elle ne se défendait toujours pas. Soudain, par calcul, elle s'éloigna de moi. Comme toutes les femmes, elle pensait que plus tard je lui reprocherais de s'être abandonnée trop facilement. Elle s'en rendait compte au point de ne plus oser persévérer dans cette attitude, de crainte de ne lasser ma patience, de n'être obligée par la suite de s'humilier pour que je ne la quittasse pas. Alors, par pitié de tant d'inquiétude, je l'embrassai sur la bouche. Elle la tint fermée. Mon baiser ne fit aucun bruit. C'était mes lèvres seulement qui s'étaient posées sur les siennes. Devant cet enfant partagé entre sa vertu et la volonté de ne pas me froisser, je fus pris de remords. Je me levai, mais restai courbé, le visage à la hauteur du sien, pour qu'elle ne crût pas que je la fuyais. Malgré moi, parce que j'étais plié en deux, je hochai la tête comme si j'eusse voulu faire rire un enfant. Elle me regarda avec étonnement, puis, des yeux, me montra une place à côté d'elle. Je sentis que je ne devais plus rester, sans quoi j'eusse laissé naître en elle des espoirs que plus tard il eût fallu dissiper. Je me redressai. Il faut que je parte, Marguerite. Il est tard. C'était la première fois que je prononçais son prénom. Une seconde, je craignis que seul Lucien ne l'appelât ainsi, qu'elle ne portât un autre nom. Je n'avais pas regardé ma montre, je lui dis qu'il était 11 heures, elle le crut comme si je ne pouvais me tromper. Elle se leva, les jambes contre le lit, prête au moindre défaut d'équilibre à tomber en arrière, elle me dévisageait. Elle pensait que ce n'était pas l'heure qui eût dû nous séparer, mais un réconfort total. Après avoir prononcé des paroles plus douces et plus générales, je m'apprêtais à sortir. Pour elle, ses paroles étaient les mêmes que si je fusse resté à son côté. Je pris mon chapeau, en refis la fente, et bien qu'il me soit désagréable de me couvrir dans une pièce, le mis sur ma tête. Elle ne s'approcha pas de la porte, soit pour ouvrir, soit pour me barrer le passage. Comme j'allais sortir, elle courut à moi, balbutia quelques mots et se mit à sangloter. « Remettez-vous, Marguerite, je reviendrai vous voir. Il faut que je rentre. » Je faillis dire que Jeanne m'attendait, habituée que j'étais à me séparer de tout le monde sur ces mots. Elle se calma, recula un peu. J'ouvris la porte juste assez pour passer, afin que le noir du palier n'accentuât pas sa détresse. Une fois dehors, je passai bêtement la tête dans l'embrasure et lui souris. Elle ne répondit pas à mon sourire et, avant que je disparusse, elle s'occupa vite de ranger des objets pour me montrer comme elle serait lorsque je l'aurais quittée. Un réverbère sur deux était éteint. Des nuages, aussi clairs que dans le matin, traversaient le ciel, du levant au couchant cette fois. La lune n'était qu'un mince croissant. Une tache pâle demeurait encore sous la place qu'elle avait occupée lorsqu'elle était pleine. Je pensais à Marguerite. À présent, je regrettais de m'être laissé aller à l'embrasser. Elle pouvait tout raconter à son frère. Cette supposition que son éloignement rendait possible me harcelait. La tournure inquiète de mon esprit faisait qu'à certains moments, je n'en doutais plus. Un taxi, éclairé comme un fiacre, passa près de moi. À cause d'une crainte infantine des rôdeurs, je marchais loin des murs. Je ne cessais de songer à la visite que je venais de rendre. Un à un, tous mes actes se présentèrent devant mes yeux. Il m'apparut soudain que j'avais trompé Jeanne, qu'elle allait l'apprendre, qu'il se passerait entre elle et moi une scène terrible. J'eus un sursaut. Je n'avais qu'à nier. Aucun témoin ne me contredirait. J'étais même plus digne d'être cru que Marguerite. J'entrai dans un café à moitié éteint. Je pris un boc. Je demandai l'heure comme, enfant, on m'avait appris à le faire. Il n'était pas tard. J'aurais pu encore flâner ainsi que les autres soirs. Mais j'eus l'impression que de longues heures me séparaient de Jeanne, qu'elle était peut-être tombée malade, que des parents lui avaient rendu visite, qu'elle attendait avec impatience mon retour. La veilleuse électrique était allumée. Jeanne dormait sur le dos. Sa montre, qu'elle ne posait jamais sur le marbre, se trouvait sur un livre. Pour qu'elle sût l'heure à laquelle je rentrais, je l'éveillais, non sans avoir hésité sur l'endroit de son corps que je devais toucher. Son regard me rassura. Encore ensommeillé, il ne pouvait deviner ce qui s'était passé. Je baissai les yeux comme Jeanne quand elle craint d'être trop décolletée, comme quand je tente de voir mon nez. Il n'y avait rien d'anormal sur moi. Pourtant, je sentis que mes mains avaient la chaleur d'un corps plus chaud que le mien, que l'air de la rue avait à peine refroidi ma veste, que si je l'eusse ôté, ma poitrine et mes bras eussent été brûlants. Jeanne parla et avant que je comprisse ce qu'elle disait, je devinais qu'elle ignorait ce que je venais de faire. Elle dormait sans épingle. Elle n'avait pas boutonné le col de sa chemise de nuit de crainte de s'étrangler dans son sommeil. « D'où viens-tu ?» Par une peur inexplicable du toucher, je n'osais répondre que je m'étais promené. « Je viens du café ?» Elle m'examina, ce qui m'effrayait quand son regard se portait autour de mon col que je ne peux voir même en baissant la tête, avec une pénétration telle que je n'eusse pas été étonné si elle avait deviné une adresse, un nom. « Armand, viens près de moi. » J'eus un éblouissement. Il me sembla que tout était perdu, que j'avais oublié quelque chose dans mes poches, qu'elle allait savoir. Je m'assis sur le bord du lit, à ses pieds, droit sous les couvertures, seule partie d'elle-même qui ne suivait pas la ligne du corps et qui m'apparut aussi grotesque que le support des jouets quand ils sont tombés. « Tu as été chez une femme. » Cette parole me fit rougir. J'eusse rougi, même si je n'avais pas été chez Marguerite, comme je rougis quand on parle d'un vol près de moi. Je souris. J'essayais d'être le même que lorsque je ne rougis pas. À force de volonté, je parvins à parler d'une voix naturelle, au point que Jeanne dut penser que j'avais le sang à la tête à cause de la chaleur. « Tu as été chez une femme. » Elle répétait ce qu'elle venait de dire. Il n'en fallut pas davantage pour que je reprisse confiance. Maintenant, elle m'irritait. Rarement je me fâche. Cette fois, je ne pus me contenir d'être soupçonné sans preuve. « Tu m'agaces, Jeanne. »« Je sais que tu as été chez une femme. » Alors je me mis à lui parler durement. Son visage s'éclaira. Elle était heureuse. Ma colère lui prouvait mon innocence. Elle ne remet plus de peur qu'un geste ne risquât de m'interrompre. Je devinais qu'elle souhaitait que je continuasse encore longtemps sur ce ton. Mais au bout d'un instant, de voir que mes paroles emportées lui donnaient une telle certitude de mon innocence, m'emplit de remords. Je me tus. Elle me prit la main. Bien qu'elle sût que je n'aimais pas qu'elle l'embrassât, elle la porta à ses lèvres. La pluie était si fine qu'il fallait porter son regard loin devant soi pour la distinguer. J'avais appuyé mon front contre un carreau de la fenêtre de notre chambre. Les gouttes qui coulaient sur le verre ne me touchaient pas. Il était midi. Jeanne s'était rendormie. J'essayais de la voir dans la vitre malgré la transparence du verre. À cause de nos corps, des étoffes déployées, des papiers tentures, il faisait tiède dans l'appartement. J'allumais une cigarette. Au lieu de monter, la fumée, comme une buée, roula jusqu'au lit, s'étala contre les glaces en même temps que son image. Elle était grise, le ciel était gris. Ce que je touchais, surtout le fer, la porcelaine, le marbre, était humide. Des femmes traversaient la cour. Le pain qu'elle portait était enveloppé, malgré la pluie, dans du papier de soie. Je quittai la fenêtre. Je me regardais dans la glace de la coiffeuse parce qu'elle est biseautée. Je n'avais pas fait ma toilette. Mon visage, mes mains avaient encore la même température que mon corps. Je pensais à Marguerite, seule dans sa chambre d'hôtel. Les horloges de la ville sonnaient. Je m'amusais à compter les coups, espérant chaque fois, je ne savais pourquoi, qu'un sonneur se tromperait, que 11 ou 13 coups retentiraient. Mais aucun sonneur ne se trompa. Tout suivait son cours normal. On s'aventurait à présent dans un après-midi qui se déroulerait lentement, coupé d'heures courtes, jusqu'au soir où les horloges s'éveilleraient enfin. Je me tenais au milieu de la pièce. Quand je ne sais à quoi m'employer, c'est toujours au milieu d'une pièce que je me tiens, afin d'être à égale distance des occupations qui pourraient se présenter à mon esprit. J'avais oublié le nombre de chaises qui se trouvaient dans la chambre de Marguerite. Je tâchais de me le rappeler comme un détail oublié pour s'endormir. Jeanne toussa. J'attendis quelques instants. Puis je m'approchai du lit, sans bruit, afin de la surprendre. Je me penchai sur son visage au point de le frôler et, pour la réveiller, je fis des grimaces. Elle ouvrit les yeux. Alors je me mis à rire aux éclats. Elle me regarda. L'étonnement donnait à ses yeux une vivacité qu'il n'avait ordinairement pas en s'ouvrant. Je riais toujours. C'était nerveux. J'éprouvais un soulagement à le faire. Des larmes me venaient au coin des yeux. Du bord de la main, comme les enfants, je les effaçais. Enfin, je me calmais. Ma respiration était bruyante. Je ne répondis pas aux questions de Jeanne. Pour qu'elle ne me vît pas d'en bas, je m'assis sur le lit. Elle fixa ses yeux dans les miens. Elle aimait à le faire. Elle avait le respect du regard. Elle connaissait la couleur des prunelles de toutes les personnes qui l'approchaient. Quand elle parlait d'une de ses amies, c'était la jeune fille plus petite qu'elle, aux yeux gris-vert ou bleu-noir. Elle tira ses jambes des draps, les examina l'une après l'autre, s'efforça, en se tournant, de les voir de derrière comme si elle se fût suivie. Elle me demanda de lui porter ses pantoufles, de les lui mettre. Je me trompais de pied parce que je tenais la pantoufle gauche dans ma main gauche. Elle rit, se cacha les jambes avec un pan de drap de la même manière que si elle eût baissé sa robe pour que je n'aperçusse pas ses genoux, prit une attitude de femme surprise, fit des entrechats, sans rapidité, la pointe du pied dirigée vers le sol pour imiter une danseuse. Elle s'arrêta, voulut embrasser sa cheville parce que je pouvais le faire. Elle était fine, Jeanne en était fière. Comme les femmes laides, elle avait des fiertés de détail, celles de ses pieds, de ses cheveux, de ses oreilles. Toutes ces minauderies m'agaçaient. Je me levai. Elle m'imita, sautant sur la descente de lit pour faire preuve cette fois de souplesse. Comme cela lui arrivait parfois, elle voulait, ce jour-là, opérer pour moi une sorte de recensement de tous ses avantages. Cependant qu'elle se poudrait debout devant la glace presque horizontale de la coiffeuse, j'étais retourné à la fenêtre. Je posai mon front contre la vitre, au même endroit, parce que la place était encore chaude, et regardait dehors, le rideau humide tiré de façon que d'en face on ne put voir que mon visage. Midi était passé. Il n'y avait plus rien à attendre. La pluie continuait de tomber. Elle s'échappait des pots de fleurs par le petit trou du fond. Sur le rebord d'une fenêtre, une bouteille était à demi pleine d'eau malgré l'étroitesse du goulot. J'entendais Jeanne aller et venir. Soudain, elle m'appela. Je me retournai. Nue devant la glace de l'armoire pour qu'elle pût voir ses bras levés, elle avait pris une pose de statue. Tournant la tête vers moi avec précaution, afin de ne pas rompre la ligne de son corps, elle demanda « Me trouves-tu bien ainsi ?» Mais quand, fatiguée, elle voulut baisser les bras, elle me pria de fermer les yeux.
C'était Armand d'Emmanuel Bove. Texte dit par Olivier Broche, 6e épisode. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Équipe de réalisation, Pierre Henry, Cécile Lafont, Bernard Laniel, Claire Levasseur, Étienne Vallès. Armand d'Emmanuel Bove est publié aux éditions Flammarion.